conduire sa voiture. Hein, ça, c'est on est habitué. On fait ça probablement tous les jours. Hein, c'est assez banal comme geste. Mais faut pas oublier que conduire son véhicule, ça vient avec des responsabilités. C'est encadré par des règles, par des lois. Et on en discute aujourd'hui de sécurité routière avec Catriane Hamel, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Catriane, bonjour!
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Et là, on va passer à travers quelques questions en rafale concernant ça. Là, pas des vrais ou faux, mais peut-être des bons rappels. Commençons en parlant des fameux points sur notre permis. Est-ce que c'est vrai de dire qu'on perd des points sur notre permis de conduire quand on commet une infraction?
Donc, c'est vraiment une expression qu'on utilise régulièrement, mais en réalité, on accumule des points d'inaptitude, on n'en perd pas. Donc, lorsque les points d'inaptitude sont accumulés, puis qu'on atteint une certaine limite désignée, on peut perdre son permis de conduire. Donc, chaque type de permis a son régime. Les gens titulaires d'un permis d'apprenti conducteur, d'un permis probatoire, d'un permis de cyclomoteur ou de tracteur depuis moins de 5 ans sont assujettis au régime de 4 points d'inaptitude. Les titulaires d'un permis de conduire âgés de 23 ans et moins peuvent accumuler un maximum de 8 points d'inaptitude et les gens âgés entre 23 et 24 ans titulaires d'un permis de conduire peuvent accumuler pour un maximum de 12 points d'inaptitude. Donc, une fois qu'on atteint l'âge de 25 ans puis qu'on a un permis de conduire, habituellement, le régime va être celui de 15 points. Il est important de souligner que les gens qui n'ont pas de permis de conduire peuvent aussi se voir accumuler des points d'inaptitude.
OK.
Donc, soit un maximum de 4 points. Donc, ça fait quand même assez drôle là, de dire qu'on n'a pas de permis de conduire, mais qu'on a des points d'inaptitude. En fait, ces gens-là peuvent accumuler des points d'inaptitude en commettant certaines infractions, comme par exemple s'accrocher à un véhicule en mouvement ou encore être passager et ne pas attacher sa ceinture de sécurité. Donc, si une personne qui n'a pas de permis de conduire accumule plus de 4 points, il va perdre son droit d'obtenir un permis de conduire pendant un certain temps.
Okay, c'est comme quelque chose qu'on repousse dans le futur.
Oui, exactement. Okay. Donc, si par exemple une personne était en voie d'obtenir un permis de conduire et atteint son maximum de points d'inaptitude, bien, il va falloir attendre avant d'avoir accès à ce permis de conduire-là, finalement.
OK.
Donc, les points d'inaptitude, eux, sont inscrits pendant une période de 2 ans environ dans le dossier du contrevenant, et ce, à compter de la date de la déclaration de culpabilité. Donc, la déclaration de culpabilité, elle peut être faite en payant une amende ou en obtenant un jugement du tribunal dans les cas où est-ce qu'on a contesté l'infraction, par exemple. Puis, les points d'inaptitude, c'est important de noter qu'ils vont aussi faire hausser le coût du permis de conduire, notamment.
Parlons maintenant des infractions. Il y en a certaines qui viennent avec différentes pénalités. En quoi concernent les pénalités qui concernent les excès de vitesse, là, plus précisément, Catriane?
Donc, les excès de vitesse, ça sépare en deux catégories, soit les excès de vitesse et les grands excès de vitesse, pardon. Donc, l'infraction de faire un excès de vitesse est de dépasser la limite de vitesse permise, mais quand on commet l'acte de dépasser la limite de vitesse permise de façon importante, on va parler à ce moment-là d'un grand excès de vitesse. Donc, ça coûte plus cher, autant en argent qu'en points. Les points d'inaptitude qui sont rattachés à l'infraction sont variables en fonction de la limite et de la vitesse enregistrée lors de l'excès. Donc, par exemple, dans les zones de 60 km/h ou moins, rouler entre 11 et 20 km au-dessus de la limite permise fait en sorte qu'on accumule un point d'inaptitude. Si, par contre, le contrevenant dépasse la limite de vitesse de 40 km/h et plus dans une zone de 60, ce sera considéré comme un grand excès de vitesse, puis les points d'inaptitude vont commencer à 6. En ce qui concerne les zones entre 60 et 90 km/h, un grand excès de vitesse est considéré à partir de 50 km/h et plus au-dessus de la limite permise. Puis pour les zones de 100 km/h et plus, un grand excès de vitesse va être constaté lorsque le contrevenant roule à 60 km/h et plus.
OK.
Une infraction de grand excès de vitesse amène la suspension du permis de conduire. Donc, si le contrevenant est intercepté à faire un grand excès de vitesse, le permis va être suspendu immédiatement. La suspension va être entre 7 et 60 jours, dépendant du nombre d'infractions de la sorte commises auparavant. Puis, si la personne est trouvée coupable de cette même infraction, les points d'inaptitude et l'amende vont être doublés. Donc, il est aussi possible que la voiture soit saisie immédiatement pendant 30 jours si l'infraction de grand excès de vitesse a été commise dans une zone de 60 km/h et moins, en plus qu'il y avait déjà une infraction de grand excès de vitesse commise dans les 10 dernières années. Donc, c'est important là, de mentionner que les infractions de grand excès de vitesse, eux, par contre, sont inscrites au dossier du contrevenant pendant 10 ans. Donc, ce qui signifie que si un contrevenant récidive, puis qu'il avait commis une infraction en 2010 et une autre en 2019. Le grand excès de vitesse commis en 2019 va être considéré comme une deuxième infraction. Et donc, là, les pénalités vont être plus importantes.
Mm-hmm.
Puis, il ne faut pas non plus oublier là, que les amendes vont être doublées concernant les excès de vitesse dans des zones scolaires ou des travaux routiers versus dans une zone régulière.
Puis, est-ce qu'il y a des infractions de grand excès de vitesse qui peuvent se traduire ou être jumelées à d'autres infractions?
Bien, c'est possible. Donc, l'infraction de grand excès de vitesse, c'est de nature pénale. Donc, on ne parle pas d'avoir un dossier criminel nécessairement. Toutefois, ça pourrait être accompagné d'accusations criminelles si la situation le nécessite. Donc, par exemple, des accusations de conduite dangereuse prévues à l'article 320.13 alinéa 1 du Code criminel pourraient être portées. Donc, si un accident se produit à la suite du grand excès de vitesse, des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou encore de conduite dangereuse causant la mort, ça pourrait être porté contre la personne. Donc, c'est vraiment en fonction de la situation.
Là, on parle de vitesse, mais qu'est-ce qu'il y en est là, au niveau de la conduite qu'on n'adapterait pas nécessairement là, aux conditions météo?
Donc, il est possible d'obtenir des points d'inaptitude si un conducteur roule trop vite pour les conditions atmosphériques ou météorologiques. Puis, il y a aussi une infraction valant 2 points d'inaptitude prévue dans la situation où un conducteur qui ne maintient pas une distance prudente avec les autres véhicules. Donc, par exemple, quelqu'un qui se tient vraiment, vraiment proche des autres véhicules, ça pourrait être passible d'une infraction. Autre que d'adapter sa conduite, là, nous, nos hivers font en sorte qu'on a d'autres responsabilités face à notre véhicule. Donc, par exemple, on doit mettre des pneus d'hiver en date du 1er décembre jusqu'au 15 mars, sous peine d'avoir une amende de 200 à 300 $. Puis c'est aussi important de bien déneiger son véhicule, donc ce qui pourrait être aussi passible d'une amende de 60 à 100 $.
Puis comment c'est régi, là, l'utilisation du fameux téléphone cellulaire? Je pense que plusieurs ont besoin de rappel. On en voit presque tous les jours des gens qui consultent leur téléphone au volant, là. Qu'est-ce qu'il y en est plus précisément pour le téléphone, Catriane?
Oui, donc on sait qu'un téléphone cellulaire au volant, on ne doit pas le faire, mais aussi, non seulement le téléphone, mais aussi un écran, ce qui inclut aussi l'écran du véhicule, là. Donc, il y a des petites nuances à apporter, là. Donc, consulter ces deux écrans-là, là, c'est interdit lorsqu'on conduit. Puis, ça peut être passible de 5 points d'inaptitude, puis une amende qui varie entre 300 et 600 $. Donc, nécessairement, c'est possible de consulter cet écran-là là, si celui-ci affiche certaines informations. Donc, on parlerait comme la pression des pneus, la consommation de carburant, passage en mode électrique-essence, l'activation de divers systèmes. Donc, vraiment, tout ce qui pourrait être dans notre tableau de bord. Donc, ça inclut également là, l'itinéraire, puis la température, par exemple, qu'on pourrait consulter. Donc, bien entendu, un conducteur peut regarder son GPS. Toutefois, là, tout ce qui est en lien avec toucher l'écran, c'est interdit. Donc, finalement, on ne peut pas.
Disons, on accroche notre téléphone, on peut le regarder pour le GPS, mais on ne peut pas y toucher, c'est ça?
Exactement. Donc, concernant le téléphone, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement également, là, quand on va voir des petits supports posés sur notre véhicule. Donc, on peut faire ça. Toutefois, on doit s'assurer que ce support-là et que notre téléphone ne va pas obstruer la vue, puis qu'il n'empêchera pas non plus de faire des manœuvres ou de réduire l'efficacité d'un équipement de véhicule. Donc, l'écran doit aussi être positionné de façon à ce que le conducteur puisse le consulter aisément et sans toucher le téléphone. Donc, si par exemple, on met notre téléphone près de notre porte-gobelet, là, ça, c'est pas réglementaire.
OK.
Il est interdit, comme j'ai mentionné, de manipuler le téléphone. Donc, les seules fois où est-ce qu'on pourrait manipuler notre téléphone au volant, ce serait pour des exceptions. Par exemple, si on veut appeler les services d'urgence, donc le 911. Puis, on pourrait aussi utiliser notre téléphone si on est arrêté puis qu'on veut payer des frais, comme par exemple à un péage.
OK. Donc, on pourrait prendre notre téléphone pour utiliser la TAP, par exemple, pour payer le péage. Là.
Exactement. Donc, okay. ça serait possible, mais c'est vraiment dans ces situations-là. Sinon, le seul moment qu'on peut l'utiliser, c'est lorsqu'on est vraiment stationné dans un endroit sécuritaire.
OK.
Donc, on ne peut pas utiliser notre téléphone là, si on est arrêté à une lumière rouge ou dans un bouchon de circulation. On conduit à ce moment-là, donc c'est interdit.
On ne qualifie pas de zone sécuritaire, là, c'est ça.
Exactement. Puis, nécessairement, là, on parle de téléphone et écran qui va inclure notamment les tablettes, les ordinateurs portables ou une montre intelligente. Donc, c'est interdit, par exemple, de consulter l'heure sur notre montre intelligente si on en porte une.
Quand même, hein, on n'y aurait pas pensé nécessairement.
Non, vraiment pas.
C'est quoi la peine reliée à l'infraction là, de ne pas correctement effectuer un arrêt? Ça aussi, j'ai le goût de dire qu'on en voit régulièrement des mauvais arrêts. Qu'est-ce qui est possible d'avoir comme infraction si ça arrive?
Oui, donc en ce qui concerne de ne pas s'arrêter correctement ou de ne pas s'arrêter du tout à un feu rouge ou un panneau d'arrêt, c'est une infraction de 3 points d'inaptitude. C'est la même chose lorsqu'on n'effectue pas un arrêt là, avant de tourner à droite à un feu rouge. Donc, on doit s'arrêter au feu rouge, on fait un arrêt complet, puis ensuite, on peut tourner à la droite si ce n'est pas interdit. Si on ne s'arrête pas à des feux intermittents et au panneau d'arrêt d'un autobus ou encore qu'on dépasse l'autobus lorsque c'est les feux ou les panneaux sont visibles, ben en fait, la peine est de 9 points d'inaptitude. Là, donc, les autobus scolaires, par exemple, là, c'est ça qu'on voit régulièrement. Puis, dans le même ordre d'idée, il est possible d'accumuler 4 points d'inaptitude si on ne respecte pas les instructions des signaleurs routiers, des brigadiers scolaires ou d'un agent de la paix. Donc, bien qu'il soit parfois nécessaire de s'arrêter, ne pas céder un passage à un véhicule d'urgence également, dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, constitue également une infraction de 4 points d'inaptitude.
Bon, on parle de points depuis tantôt. Si on atteint la limite des points d'inaptitude qui sont désignés, là, qu'est-ce qui arrive?
Donc, la SAC va commencer par envoyer un avis d'information lorsqu'un certain point d'inaptitude a été accumulé. Donc, avant de se voir, en fait, suspendre notre permis, là, on va recevoir des avis. Donc, les avis d'information vont servir à informer le conducteur sur l'état de son dossier. Donc, ils vont contenir le nombre de points d'inaptitude inscrits au dossier, la durée de l'inscription de ces points-là et le nombre de points restants avant la révocation du permis de conduire. Pour les régimes de 4 points, aucun avis va être communiqué. Autrement, un avis va être envoyé au moment qu'une personne assujettie au régime de 8 points accumule au moins 4 points d'inaptitude. Une personne qui est assujettie au régime de 12 points va recevoir un avis lorsqu'il va accumuler au moins 6 points d'inaptitude. Et finalement, une personne assujettie au régime de 15 points va recevoir un avis du moment qu'au moins 7 points d'inaptitude ont été accumulés. Donc, lorsqu'on accumule le maximum ou plus de points d'inaptitude que son régime ne permet, on va recevoir un avis de révocation par la poste. Donc, l'avis de révocation va avoir le nombre de points d'inaptitude inscrits au dossier et la durée d'inscription de ces points-là. Donc, l'avis de révocation va faire en sorte que son droit d'avoir un permis de conduire est révoqué, ce qui signifie qu'on ne va pas pouvoir conduire un véhicule. La révocation, là, elle peut durer d'un minimum de 3 mois, mais la durée va vraiment varier en fonction du point d'inaptitude accumulé. Mm-hmm. Donc, par exemple, quelqu'un qui a commis un grand excès de vitesse puis qui a accumulé 30 points, ben ce sera peut-être pas nécessairement 3 mois là, qu'il ne va pas pouvoir conduire. Mm-hmm. Donc, non seulement il va avoir un délai avant de pouvoir conduire une voiture, mais il va aussi falloir passer un examen théorique de réinsertion afin de pouvoir réobtenir le permis. Puis, il faut donc se rendre à un point de service de la SAC pour effectuer ce petit examen-là. Il est possible de demander devant un juge l'obtention d'un permis restreint si c'est la première fois qu'on fait l'objet d'une révocation dans les 2 dernières années. Donc, il faut toutefois le prouver au juge que le permis de conduire est nécessaire et obligatoire dans le cadre de son travail principal. Puis, il est possible de faire cette demande au moment de l'avis de la réception de révocation, finalement. Les gens qui vont conduire un permis révoqué ou suspendu vont voir le véhicule remorqué et remisé pendant 30 jours aux frais du propriétaire et payer une amende oscillante entre 600 et 2000 $.
Là, on parle beaucoup de voitures, Catherine, depuis tantôt. Est-ce que les motoneigistes ou les VTT sont assujettis aux mêmes règles?
Oui, donc ça ressemble assez à ce qu'on est habitué de voir en termes de conduite automobile. Par contre, là, les lois vont différer un peu en fonction des véhicules en route. Mais quand on parle de véhicules en route, là, juste pour faire plus précisément, là, on parle de motoneige, comme on a mentionné, véhicules tout-terrain motorisés, comme des VTT, mais ça inclut aussi les motoquads, les motocross et les autoquads. Et sur ce, Sébastien, est-ce que tu connais les termes motoquad et autoquad?
Ben, autoquad, est-ce que c'est comme un side-by-side?
Oui, exactement. Okay. Donc, motoquad, c'est un 4 roues. Donc, moi, okay. Personnellement, avant que je fasse les recherches, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai dû me pencher sur les 2 termes. Donc, si on va sur le site de la SAC, c'est les termes qu'ils vont utiliser. Donc, motoquad pour 4 roues et autoquad pour side-by-side, côte-à-côte. Donc, pour le bien de la chronique, là, je vais utiliser les termes bien connus 4 roues et côte-à-côte.
C'est parfait, c'est bon ça.
Donc, ces véhicules-là, ça doivent être immatriculés là, pour pouvoir circuler. Donc, les gens qui conduisent des véhicules en route sur un sentier, une route, une terre publique ou une terre privée appartenant à une municipalité doivent être âgés d'au moins 16 ans et détenir un permis de conduire valide, incluant un permis de cyclomoteur, par exemple. Donc, la personne âgée de 16 ou 17 ans doit également avoir un certificat de formation par la Fédération québécoise des clubs quad ou la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Puis il y a quand même des nuances, là. Donc, pour conduire un côte à côte, il faut avoir plus de 18 ans et posséder un permis de conduire valide. Et pour conduire un 4 roues qui est motivé par l'ajout, par exemple, d'un siège d'appoint sur lequel on pourrait avoir un passager, il faut avoir 18 ans et plus et détenir un certificat de formation en plus de posséder un permis de conduire valide.
Parfait.
Donc, pour pouvoir circuler, le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir en sa possession le certificat d'immatriculation, son permis de conduire et le certificat de formation, le cas échéant. Il doit également avoir son attestation d'assurance et, si nécessaire, une attestation du paiement des droits d'accès au sentier. Finalement, là, les conducteurs doivent respecter les limites de vitesse, bien entendu, mais aussi d'agir de façon prudente et sécuritaire en restant en contrôle de leur véhicule. Donc, il est également interdit de conduire avec les facultés affaiblies et les passagers ne peuvent pas non plus consommer de l'alcool à bord de ces véhicules-là. Le port de ceinture de sécurité est également nécessaire lorsque le véhicule en possède. Puis le port du casque avec visière et des vêtements adaptés sont aussi nécessaires. Là, dans les cas de non-respect de ces deux règles-là, finalement, les conducteurs risquent des amendes, même une note au dossier de conduite, là, donc du permis de conduire. Puis, dépendant de la situation, il pourrait aussi avoir des accusations criminelles. Donc, par exemple, lorsqu'on parle d'infractions liées à l'état d'ébriété d'un conducteur.
De bons rappels, ça, Catriane, aujourd'hui, parce que c'est des trucs qu'on sait, mais des fois, il y a quelques oublis qui se glissent en cours de route. Catriane Hamel, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, merci pour ces rappels, puis on aura d'autres nouvelles sur d'autres sujets dans deux semaines. Puis sinon, si on a des questions d'ordre juridique comme celle-là, bien, on peut appeler au CJPO?
Oui, exactement, on est toujours disponible.
Merci beaucoup, à dans deux semaines.
Merci, au revoir.